Radio Kapi. Oh, Kapi. Le journal à la présentation Noëlla Louzitou Kabambi.
La situation dans l'est de la RDC est grave et alarmante et des violations et atteintes aux droits humains sont d'une ampleur et étendue effroyable. Propos de Volker Türk, haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, dans sa présentation devant le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies hier lundi à Genève, de la mise à jour orale de la mission d'établissement des faits sur la RDC. Les provinces issues du Grand Kivu veulent travailler ensemble pour le développement de chacune d'entre elles à travers un cadre permanent de coopération interprovinciale. Le Nord Kivu, le Sud Kivu et le Maniema tentent à favoriser des initiatives conjointes essentielles au développement durable de l'espace Grand Kivu. Dans ce journal, vous suivrez Jean-Jacques Bourossi, gouverneur du Sud Kivu. Le représentant résident du PNUD en RDC sera notre invité vers la fin de ce journal. Avec Damien Mama, il sera question des ouvrages dont l'exécution des travaux ont été confiés au PNUD par le gouvernement congolais dans le cadre du programme de PEDEL 145 territoires dans 9 provinces. Bonjour à tous et bienvenue à ce journal. Le chef des droits de l'homme de l'ONU lance ce cri d'alarme sur la RDC, je cite: alors que les affrontements continuent sans répit dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu, la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo est grave et alarmante. Dans une présentation devant le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies hier lundi à Genève, de la mise à jour orale de la mission d'établissement des faits sur la RDC, Volker Türk a décrit des violations et atteintes aux droits humains d'une ampleur et étendue effroyable, selon ses propres termes. Étienne Lissoumbou nous donne les grandes lignes de son exposé.
Selon le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, toutes les parties au conflit de la province du Nord Kivu et Sud Kivu ont commis des violations ou atteintes aux droits humains ainsi que des violations du droit international humanitaire. D'après Volker Türk, les conclusions préliminaires de la mission d'établissement des faits montrent une apparente absence totale de considération pour la protection des civils pendant et après les opérations militaires. Lors des combats en début d'année ayant conduit à la conquête de Goma par l'M23, le groupe rebelle soutenu par le Rwanda, il y a un effondrement total de la chaîne de commandement quand les forces armées de la RDC se sont repliées. Des soldats congolais et des membres des milices de Wazalendo, soutenus par la RDC, ont tué, violé et pillé, indique-t-il. De son côté, affirme Volker Türk, le M23 a arrêté arbitrairement des policiers et de nombreux civils, y compris des enfants, après avoir pris le contrôle des villes et villages. Des combattants du M23 ont aussi capturé des soldats des FARDC et forcé certains d'entre eux à rejoindre leur rang. Par ailleurs, les équipes du haut commissaire Türk indiquent avoir reçu des informations sur l'usage choquant de la violence sexuelle par toutes les parties au conflit dans le Nord Kivu et Sud Kivu.
En Ituri, plus de 700 000 enfants sont affectés par les conflits armés depuis 2017, surtout dans les territoires de Djougou et d'Irumu. La plupart de ces enfants installés dans des sites de déplacés vivent dans des conditions difficiles et ne vont pas à l'école. C'est le constat fait hier lundi 16 juin par la coordination de la société civile de l'Ituri à l'occasion de la Journée internationale de l'enfant africain. Cette structure demande au gouvernement et à ses partenaires de garantir les droits de ces enfants en vue de sauver leur avenir. Isaac Rémo.
Ces enfants sont disséminés dans plus de 60 sites de déplacés. D'autres sont dans des familles d'accueil ou traînent dans les rues, notamment à Bounia, chef-lieu de la province, et à Komanda. Ils manquent de tout, vivres, soins médicaux, habits. La plupart ne vont pas à l'école depuis 7 ans. Pour la coordination provinciale de la société civile, cette journée dédiée aux enfants africains doit interpeller toutes les institutions nationales et internationales à se pencher sérieusement sur la situation de précarité des enfants à l'est de la RDC, mais surtout de trouver des solutions durables, entre autres, arrêter les violences armées qui perdurent. C'est l'envie de leur offrir un environnement qui contribue à leur épanouissement général. Dieudonné Lossa.
Beaucoup d'enfants se trouvent dans des situations médiocres que le monde entier reconnaisse la souffrance de ces enfants et trouve la solution pour que ces souffrances soient arrêtées. Nous avons besoin d'appui des pays partenaires à la RDC, des communautés internationales, afin de nous aider à arrêter les violences pour permettre à ces enfants de revenir dans les villages, leur donner la chance de retrouver le chemin de l'école et aussi de vivre dans les conditions adéquates.
nombreux enfants sont utilisés dans les groupes armés ou dans des carrières minières, ce qui constitue une violation de leurs droits, ajoute la même source. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Toujours à l'occasion hier, 16 juin, de la journée de l'enfant africain, regardons maintenant vers le Nord Kivu, où une centaine d'enfants affectés par les conflits armés plaident pour la garantie de leur protection. Ils l'ont dit lors des cérémonies commémoratives organisées hier lundi à Goma par l'ONG Programme d'appui à la lutte contre la misère PAMI, une activité appuyée par l'UNICEF et la section de protection de l'enfant de la MONUSCO. C'était aussi une occasion de vulgariser les instruments juridiques des droits des enfants. Les détails avec vous, Élise Kavira.
Réunis autour du thème planification et budgétisation des droits de l'enfant, le seul vœu des enfants des Goma et territoires environnants reste celui de voir tout mis en œuvre pour garantir leur sécurité et protection. C'est comme le dit ici l'une d'entre eux.
La situation de l'enfant congolais des territoires de Rutshuru, Beni, Masisi, Nyiragongo et de la ville de Goma laisse à désirer. Nous lançons des cris de détresse et de secours au gouvernement et aux différents acteurs de protection de l'enfant. Nous avons droit à la protection car nous ne sommes pas acteurs, encore moins bénéficiaires de guerres auxquelles nous sommes soumis.
Le chef des projets à l'ONG PAMI déplore quant à lui le défi du moment dans leurs activités de protection des enfants. Jean-Marie Negoura.
En ces temps où on n'est pas vraiment bien à l'aise, les banques fermées et les forces gouvernementales un peu éloignées, on ne parvient pas à bien célébrer la journée parce que même les moyens sont limités. Les bailleurs de fonds n'ont pas la facilité de nous superviser.
Avec l'appui de la MONUSCO et de l'UNICEF, l'ONG PAMI encadre présentement près de 800 enfants affectés par les conflits armés. Parmi eux, plus de 200 ressortissants des forces et groupes armés.
Réunion hier à Kinshasa sur le processus de réforme du secteur de la sécurité en RDC, RSS, entre le conseiller spécial de la présidence, Désiré Kachmire-Berrand, et la chef de la mission des Nations Unies en RDC, Bintou Keïta. Ont été aussi conviés à cette rencontre des représentants des principaux ministères, des agences de l'État et plusieurs ambassadeurs. L'objectif était d'inaugurer, selon les termes du conseiller spécial du chef de l'État, une série d'échanges autour de la réforme du secteur de la sécurité. Bintou Keïta, la chef de la MONUSCO, a salué la démarche des autorités congolaises qui s'inscrit pour elle dans un contexte favorable. Ces échanges devant aboutir à l'acquisition d'une politique nationale de la sécurité. Elle est au micro d'Étienne Lissou.
Bien que le contexte politico-sécuritaire reste complexe avec la situation à l'est du pays, il est impératif d'asseoir dès à présent les bases solides d'une réforme pérenne. L'élaboration d'une politique de sécurité nationale qui définirait la vision nationale et les objectifs en matière de sécurité, ainsi que la définition d'une stratégie de réforme de la sécurité constitueront un cadre structurant pour la mise en œuvre d'un plan d'action dès que les conditions le permettront. Cette politique de sécurité nationale servirait également d'instrument principal pour mieux harmoniser les ressources et coordonner l'appui à la réforme de secteur de sécurité, permettant ainsi aux partenaires d'aligner leurs interventions sur les priorités nationales.
Retour au Nord Kivu. Ouverture hier lundi à Beni d'un atelier de 3 jours visant à renforcer la collaboration entre le gouvernement provincial et la MONUSCO pour protéger les civils et assurer la mise en œuvre du mandat de la mission de l'ONU. Organisé par la section des affaires civiles de la MONUSCO Beni, cet atelier réunit près de 90 participants, dont des membres du gouvernement provincial, des autorités politico-administratives, des chefs coutumiers, des acteurs humanitaires et des représentants de la société civile de Beni, Butembo et Lubero. Pendant 3 jours, ces acteurs clés uniront leurs forces pour élaborer des actions concrètes pour renforcer la sécurité et la paix dans la région. Les détails avec Martial Papimoukeba.
Le commissaire divisionnaire adjoint Louis Segon Karawa, vice-gouverneur du Nord Kivu, qui a lancé ses travaux, a insisté sur l'importance du renforcement du partenariat entre les gouvernements provincial et la MONUSCO.
Nous voulons réellement que nous puissions bâtir un partenariat qui est vraiment correct. Vous savez que la MONUSCO, c'est un partenaire de longue date et nous voulons que nous renforçons encore de plus ce partenariat et l'appui de la MONUSCO pour tout ce que nous avons comme force de sécurité.
À ce sujet, Abdourahmane Ganda, chef du sous-bureau de la MONUSCO à Beni, a souligné que cet atelier permettra d'établir les cadres de cette collaboration.
Il est donc important pour nous de définir un cadre référentiel dans lequel nous allons travailler pour répondre aux attentes non seulement des autorités, mais aussi et surtout de l'ensemble de la population, et particulièrement en matière de la protection des civils.
Une feuille de route sera élaborée pour guider la collaboration entre les gouvernements provinciaux et la MONUSCO à Beni, Butembo et Lubero. Beni, Martial Papi Mukeba, Radio Okapi.
Les provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu et du Maniema signent un accord de coopération interprovinciale. Ce cadre permanent de coopération interprovinciale vise le renforcement des intérêts communs dans divers secteurs. Les responsables de ces provinces ajoutent que cet accord vise également à améliorer la gouvernance locale et à favoriser des initiatives conjointes essentielles au développement durable de l'espace Grand Kivu, dans la droite ligne de la vision du président de la République. Le gouverneur du Sud Kivu, Jean-Jacques Pourroussi, donne des détails dans cet extrait choisi par Florence Kizalunga.
L'idée, c'est de nous mettre ensemble pour essayer de faire face aux nombreux défis qui affectent la population du Sud Kivu, du Nord Kivu et du Maniema. Il faut savoir que nos provinces sont confrontées à une particularité liée notamment aux questions minières. Donc il y a un sérieux trafic illicite de nos minéraux. Comme vous savez, nous sommes en guerre, mais l'objet principal de la guerre, nos voisins nous font la guerre, le monde entier nous fait la guerre, tout simplement parce que nous avons des minéraux stratégiques. Selon nos calculs, le Grand Kivu réuni peut générer facilement 24 milliards de dollars américains par mois. Voilà pourquoi on s'est dit non, on se met ensemble. Ça va nous aider au fait, si on se concerte correctement, si on travaille ensemble la main dans la main, on va non seulement lutter contre le trafic illicite, mais aussi on va favoriser les échanges commerciaux, c'est-à-dire la libre circulation des personnes et des biens, qui est un droit constitutionnel. Cette union permet vraiment de faire bénéficier à nos populations les ressources et la facilitation du commerce transfrontalier entre nos provinces.
Toutes les infrastructures construites dans le cadre du programme de PEDEL 145 territoires seront livrées dans le délai. Le représentant résident du PNUD en RDC le rassure, tout en reconnaissant que des imprévus d'ordre sécuritaire et climatique pourraient impacter négativement l'avancement des travaux. Damien Mama reste confiant. On l'écoute au micro de Blaise Shindani Kambal.
En ce qui concerne le PNUD, le programme est dans le bon. Nous avons eu du retard dû à ce qu'on a déjà discuté, mais les contrats qu'on a signés, les fonds sont bloqués pour ces contrats et il n'y a aucune raison pour laquelle les infrastructures ne seront pas livrées. Donc je rassure les auditeurs que le PNUD va livrer les 764 infrastructures d'ici l'année prochaine.
Voilà, le deadline c'est jusqu'en 2026, c'est ça?
Bon, déjà, vous savez, le programme a été conçu initialement pour 18 mois, mais vous savez, une phase, il faut concevoir, mais après les études de faisabilité, les réalités de terrain et autres sont des choses qui retardent.
Les imprévus.
mais une chose est claire, la grande partie sera terminée cette année, mais il va rester certainement une centaine pour le premier trimestre de l'année prochaine. C'est un peu notre objectif et on espère très bien aussi que la situation sécuritaire, logistique, pluviométrique et autres nous permettra d'évoluer très rapidement.
Au Sud Kivu, les travaux de construction des 10 km de route reliant le rond-point Kamvivira au port de Kalundu dans la ville d'Uvira sont suspendus. L'entreprise d'exécution EIC EK motive sa décision par le manque de moyens financiers attendus du gouvernement. La population bénéficiaire de l'ouvrage exprime sa déception et demande aux autorités de libérer les fonds destinés aux travaux. On écoute à ce sujet Serge Kigwati, coordinateur national de la société civile des nationalistes congolais.
Nous voulons présenter notre indignation auprès du gouvernement central par rapport à une note de service d'une entreprise groupe EIC EK. Nous demandons ceci au gouvernement central de décaisser l'argent auprès de cette entreprise pour reprendre les activités. La population nous a donné confiance quand on a sensibilisé la population de détruire des maisons. C'est le gouvernement maintenant qui doit aussi prendre leurs responsabilités pour qu'on puisse terminer la RN5.
Pour sa part, le directeur général de l'entreprise concernée par l'exécution des travaux fait porter la responsabilité de l'arrêt au gouvernement. Selon lui, aucune facture sur les 6 émises par l'entreprise n'a été traitée en sa faveur. Le directeur général de EIC EK s'inquiète car au fur et à mesure que les jours passent, le délai imparti au projet s'écoule avec comme conséquence un manque à gagner pour l'entreprise.
Actualité internationale.
Les diffusions de Radio France Internationale RFI et de la chaîne de télévision France 24 ont été suspendues hier au Togo pour 3 mois par l'instance de régulation des médias. Pour la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication, citée par l'agence France Presse, plusieurs émissions récentes ont relayé des propos inexacts, tendancieux, voire contraires aux faits établis, portant atteinte à la stabilité des institutions républicaines et à l'image du Togo. Dans un communiqué, les directions de RFI et de France 24 disent avoir appris avec surprise la suspension sans préavis de leur diffusion.
L'invité.
180 ouvrages déjà achevés, 206 ouvrages en finition, 109 ouvrages au niveau de l'élévation des murs et 107 ouvrages au niveau de la fondation. C'est le bilan à mi-parcours du PNUD en ce qui concerne l'exécution du programme de PDL 145 territoires dans 54 territoires répartis sur 9 provinces. Affirmation du représentant résident du PNUD en RDC dans une interview exclusive accordée à Radio Okapi. Par ailleurs, concernant les accusations du centre de recherche en finances publiques et développement local, CREF DEL, qui soutient que le fonds alloué au programme de développement local ne correspond pas à la qualité des ouvrages sur le terrain. Le représentant résident du PNUD en RDC répond que ce n'est pas le cas. Damien Mama s'entretient avec Blaise Shindani Kambala.
Monsieur le représentant résident, bonjour.
Bonjour.
Quel est l'état des lieux actuels de la mise en œuvre de PEDEL 145 territoires en ce qui concerne le PNUD?
Alors, en ce qui concerne le PNUD, nous avons commencé, comme les autres agents de mise en œuvre aussi, avec la première phase. Et le PNUD, au cours de cette première phase, pour les 54 territoires sur 9 provinces dont nous avons la charge, doit construire 764 infrastructures au total. Et dans une première phase, on a signé des contrats pour 631, donc c'est les travaux qui étaient en cours. Alors, puisque les décaissements se font par étapes. On a eu les derniers fonds en fin de l'année dernière. On a signé le reste des contrats. Pour l'ensemble de 634, sauf bien sûr une partie qui concerne le Sud Kivu, on a, les travaux sont un peu ralentis à cause de la situation que vous connaissez. Donc, les travaux sont en cours. Et à l'heure où je vous parle, on a déjà 180 ouvrages qui ont été achevés. Il y a 206 ouvrages en finition, 109 ouvrages au niveau de l'élévation des murs et 107 ouvrages au niveau de la fondation. Et le reste se poursuit et nous restons confiants que les infrastructures seront livrées le moment venu.
Alors dites-nous, le centre de recherche en finances publiques et développement local a fait des révélations selon lesquelles les fonds alloués pour la construction des infrastructures ne correspondent pas à la qualité du travail. Que répondez-vous à ces accusations?
J'ai effectivement vu une campagne organisée sur la base de chiffres fabriqués et je ne voudrais pas en dire plus.
Avez-vous eu le temps d'échanger avec le CREF DEL?
Bien sûr, on a envoyé des informations à l'organisation concernée parce que nous avions pensé que c'était un travail sérieux.
Voilà. Dites-nous, monsieur le représentant résident, avec la crise globale actuelle, est-ce que le PNUD peut confirmer la mobilisation des financements pour entamer la seconde phase de ces programmes?
Il faut dire que ce programme est financé par le gouvernement de la RDC. Donc, ce programme n'est pas perméable aux victimes de la crise financière internationale, puisque les ressources sont mobilisées localement. C'est vrai que le PNUD apporte une contribution modeste. Alors, étant donné que ce sont des ressources nationales qui financent ce programme, je ne pense pas qu'il y ait de crainte, c'est une question d'allocation budgétaire. Et dès que l'espace budgétaire permet au gouvernement, on doit pouvoir lancer les prochaines phases qui concernent les routes de dessert agricole, les chaînes de valeur agro-sylvopastorales, l'électricité, l'eau, et tous les services dont les populations les plus éloignées ont besoin sur le territoire national.
Quels sont les défis majeurs à relever pour assurer le succès total de ce programme à travers tout le pays?
Le principal défi, c'est l'accès. L'accès, vous savez, le territoire est grand, il n'y a pas de route, l'accès est compliqué. On a utilisé beaucoup les voies lagunaires, dont les voies fluviales. Par exemple, sur le fleuve, on a eu 6 cas de naufrage de baleinières avec des dizaines de tonnes de matériel qui ont été noyées, perdues par les entreprises. On a des défis sécuritaires parfois et on a des intempéries aussi liées à la pluviométrie. Il y a des zones qui sont totalement inaccessibles pendant la saison des pluies. Alors, donc, tous ces défis, on fait face à ça. grâce aux Congolaises et Congolais qui transportent du matériel sur la tête, qui transportent sur les vélos, sur les motos, dans les voitures, sur les fleuves et les lagunes. Et à ces gens, je voudrais dire merci et leur rendre hommage.
Pouvez-vous dire que, concernant le PNUD, jusque là, ce programme est dans le bon?
En ce qui concerne le PNUD, le programme est dans le bon. Nous avons eu du retard dû à ce qu'on a déjà discuté. Mais les contrats qu'on a signés, les fonds sont bloqués pour ces contrats. Et il n'y a aucune raison pour laquelle les infrastructures ne seront pas livrées. Donc je rassure les auditeurs que le PNUD va livrer les 764 infrastructures d'ici l'année prochaine.
Voilà, le deadline c'est jusqu'en 2026, c'est ça?
Déjà, vous savez, le programme a été conçu initialement pour 18 mois, mais vous savez, une phase, il faut concevoir, mais après, les études de faisabilité, les réalités de terrain et autres sont des choses qui retardent.
Les imprévus.
mais une chose est claire, la grande partie sera terminée cette année, mais il va rester certainement une centaine pour le premier trimestre de l'année prochaine. C'est un peu notre objectif et on espère très bien aussi que la situation sécuritaire, logistique, pluviométrique et autres nous permettra d'évoluer très rapidement.
Les 9 provinces réservées au PNUD se retrouvent du côté gouvernement ou bien vous êtes aussi dans les zones occupées?
Nous avons à charge le Bas-Ouélé, le Kasaï, le Maniema, la Mangala, le Sankuru, le Sud-Kivu, le Tanganyika, la Tchopo et la Tchouapa. Et vous savez que le Sud-Kivu est affecté. Et pour le moment, les travaux ont été suspendus à ce niveau-là.
Damien Mama, représentant résident du PNUD en RDC, je vous dis merci beaucoup.
Merci.
Merci aussi à vous qui avez suivi ce journal mis en onde par Alain Goy et présenté par Noéla Luzito Kabambi, le tout sous la coordination et la supervision de Pelé Kipela Mondo.